Le lendemain matin, il faisait un froid de loup lorsque Lucrèce descendit de l'autobus, place de la Comédie. Malgré le vent glacial, elle voulait s'offrir une longue marche avant d'aller surprendre sa mère à la librairie. Elle décida d'abord de remonter vers le jardin public par les allées de Tourny et le cours de Verdun, son parcours de prédilection. Toute la ville était décorée pour Noël, et dans cette atmosphère de fête qui lui rappelait sa jeunesse, confortablement emmitouflée dans un blouson fourré déniché dans la penderie de son frère, elle se sentait délicieusement bien. Elle bifurqua à droite, sur le cours Xavier Arnauzan, pour passer devant le temple des Chartrons, d'une superbe architecture néoclassique, avant de gagner le quai. Là, elle resta immobile un moment, à respirer l'odeur de l'estuaire, tout en regardant distraitement le croiseur Colbert, privé pour toujours de sorties en mer. Enfin rassasiée du spectacle, elle prit la rue Latour, puis la rue Notre-Dame, où les nombreux antiquaires commençaient à remonter leurs rideaux de fer. À cette heure matinale, il y avait peu de passants, et elle put s'attarder à loisir devant les vitrines qui regorgeaient d'objets anciens. Délibérément, elle n'avait pas prévenu sa mère, se réjouissant d'avance à l'idée de voir son visage s'illuminer. Elles allaient pouvoir bavarder tous leurs sous et ensuite aller chercher Sophie au musée pour un déjeuner entre femmes. Elle s'arrêta une seconde, place de l'Engalerie, devant la façade de l'église Saint-Louis. Pourquoi Fabian lui manquait-il de manière aussi aiguë? À Paris, elle pensait moins à lui, sauf certains soirs où elle se sentait seule dans son grand lit. Mais la plupart du temps, elle était trop occupée et trop passionnée par son travail pour s'accorder le luxe de la nostalgie. De loin, elle aperçut l'enseigne de la minuscule librairie. Le rideau de fer était levé, sa mère devait être en train de ranger des piles de livres ou bien de préparer sa première cafetière de la matinée. Sur l'étroite vitrine, les lettres blanches se détachaient nettement. Emmanuel Berthier, encadré d'une guirlande lumineuse multicolore et de branches de houx. Avec un petit serrement de cœur, Lucrèce espéra que les clients étaient nombreux à l'approche de Noël. Depuis qu'elle gagnait correctement sa vie, elle avait souvent proposé une aide financière à sa mère, sans obtenir d'autre réponse qu'un éclat de rire. Elle poussa la porte, entendit tinter la clochette familière. Derrière son comptoir de pitch-pain, Emmanuel leva la tête, puis elle se précipita vers sa fille, abandonnant le paquet cadeau qu'elle était en train de confectionner. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas venir ce week-end? Je suis tellement contente de te voir. Viens te réchauffer, il y a du café. » Près de la caisse, à côté du gros fauteuil en cuir élimé où Emmanuel lisait autant de livres qu'elle en vendait, le radiateur électrique tournait à plein régime. L'hiver, il faisait toujours froid dans le petit magasin. Cependant, l'atmosphère avait quelque chose de chaleureux et d'intime qui plaisait aux habitués. Lucrèce prit la tasse que sa mère lui tendait et but avec plaisir quelques gorgées de café brûlant. Elle avait décidé de ne pas lui parler de sa soirée de la veille, ni de l'appel de son père. Moins elle lui en dirait, et mieux sa mère se porterait. « Alors, comment vont les affaires, maman ?» s'enquit-elle gaiement. « Pas mal. Les gens aiment offrir des livres pour les fêtes. Et puis j'ai mes clients fidèles. Regarde tous ces paquets. Ce sont des commandes. Tu as vu mon papier de Noël? Il est beau, non? Allez, assis-toi là. Je continue à emballer pendant que tu me racontes ta vie. Tiens, fais-moi rire avec ton Claude-Éric Valère. » Tout ce que Lucrèce lui confiait au sujet de cet homme extraordinaire semblait beaucoup l'amuser. Elle affirmait ne plus lui en vouloir d'avoir entraîné sa fille à Paris, surtout quand elle se plongeait dans la lecture de Maintenant, qu'elle considérait comme l'un des meilleurs hebdomadaires d'actualité. C'est un type formidable, déclara Lucrèce. Avec lui, j'ai l'impression d'apprendre chaque jour. Il est cynique, tyrannique, caractériel, mais tellement intelligent. J'aimerais pouvoir te le présenter.
Oh, je suppose qu'il ne demanderait pas mieux.
Elles éclatèrent de rire, ce qui les empêcha d'entendre la clochette de la porte, et quand elles découvrirent l'homme qui s'était immobilisé loin d'elles, il y eut un brusque silence. Ils se dévisagèrent tous les trois avec embarras, jusqu'à ce qu'Emmanuel réagisse.
« Venez donc boire un café, Nicolas. Vous êtes toujours le bienvenu, » dit-elle d'un ton ferme. Indécis, le jeune homme restait près de la porte. Et Lucrèce se leva. Au plaisir inattendu qu'elle éprouvait soudain se mêlait un sentiment de gêne. Elle n'avait pas revu Nicolas depuis 6 ans, hormis un soir où elle l'avait aperçu de loin, l'année précédente, sortant du grand théâtre en compagnie de sa femme. Mais la dernière fois qu'il s'était adressé la parole, c'était à la gare Saint-Jean. Cet après-midi-là, elle quittait Bordeaux pour de bon, et lui devait se marier quelques jours plus tard. Pourtant, il était venu lui dire adieu. Elle se souvenait très précisément de la façon dont il l'avait serrée contre lui, dans une étreinte muette qui les avait désespérés tous les deux. Contournant le comptoir, elle se dirigea vers lui. « Comment vas-tu ? Tu n'as pas du tout changé. Ça me fait plaisir de te voir. » Elle eut l'impression que sa voix sonnait faux, et elle toussota. Mais au lieu de la regarder, Nicolas observait Emmanuel d'un air de reproche. Elle entendit sa mère murmurer « Lucrèce m'a fait le plaisir d'une visite surprise. » Sans doute s'arrangeait-il pour ne jamais risquer de la rencontrer, alors qu'il venait régulièrement à la librairie. Il se tourna enfin vers elle, un peu crispé. « Je suis ravi, » dit-il très vite. Il avait toujours les mêmes yeux noisettes, pailletés d'or, et ses cheveux châtains étaient un peu trop longs. « Je lis tous tes articles, » ajouta-t-il. « Tu as fait du chemin. »
« Et tes vignes ?»
Il se décida à sourire, comme s'il était heureux qu'elle s'en souvienne. « J'y suis finalement arrivé. Je te ferai goûter mon vin. Enfin, j'en apporterai une caisse à Emmanuel. » D'un geste qu'elle essaya de rendre naturel, Lucrèce le prit par le bras pour l'entraîner vers le comptoir. « En attendant, viens boire ce café et dis-moi ce que tu deviens. » Elle calcula qu'il devait avoir environ 37 ans. Et probablement une ribambelle d'enfant. « J'ai un fils, » déclara-t-il. « Et j'habite toujours au même endroit. » Emmanuel, qui les observait avec curiosité, tendit une tasse à Nicolas, puis annonça qu'elle avait une lettre urgente à poster, en recommandé, et qu'elle leur confiait la boutique un petit quart d'heure. Lucrèce voulut protester, mais sa mère était déjà sortie. « Ne fais pas cette tête-là, » lui dit doucement Nicolas. De nous deux, c'est moi qui suis le plus gêné.
Il n'y a aucune raison, vraiment.
Après tout, ils n'avaient même pas été amants. Elle trouva qu'il n'avait pas l'air très heureux pour un homme ayant atteint tous ses objectifs. Se marier, avoir des enfants, quitter son métier de négociant. Il croyait à l'amour et à la famille. Sa femme devait être mère au foyer et lui arpentait probablement ses vignes du matin au soir. « Tu es toujours aussi belle. Comment se fait-il que... »«
Tu dois tout savoir par maman, je suppose. » »«
Oui, bien sûr. Elle est gentille, elle me tient au courant. » La clochette tinta tandis qu'une femme âgée pénétrait dans la boutique. Elle venait réclamer une commande. Et au bout de 2 minutes de recherche, Lucrèce trouva le paquet tout prêt, au bout du comptoir. Quand ils furent de nouveau seuls, Nicolas murmura. De voir rendre la monnaie me ramène des années en arrière. En principe, elle y songeait rarement, mais la vision du supermarché où elle avait été caissière s'imposa aussitôt. À l'époque, elle y travaillait à mi-temps. Et lui venait acheter n'importe quoi, juste pour pouvoir passer devant elle. Il avait dû l'inviter 20 fois à prendre un verre avant qu'elle accepte.
« Tu te souviens du jour où nous sommes allés chercher mes résultats à la fac ?»
lança-t-elle gaiement.
Tu avais un coupé Mercedes, très voyant sur le campus, avec le téléphone à bord, et j'ai pu appeler maman pour lui annoncer la nouvelle.
Ensuite, nous avons déjeuné dans une guinguette à Mako, rappela-t-il.
Tu as une bonne mémoire.
Trop bonne quand il s'agit de toi.
Il ébaucha aussitôt un geste d'excuse,
sans doute navré par son aveu intempestif. Si je ne venais pas acheter mes livres ici, je n'entendrais plus parler de toi. Je crois que ça me manquerait.
Mais tu n'as jamais voulu qu'on se croise, si je comprends bien.
Pourquoi faire?
Je ne sais pas. Pour être amie, pour... Elle se souvint trop tard qu'elle avait utilisé la même expression quelques années auparavant, provoquant sa fureur. « Je ne peux pas être ton amie », avait-il hurlé.